Salon-Rente, les 6 et 7 novembre 2024, à Paris Expo, Porte de Versailles. En partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Adaptimo sur Radio Imo.
Et bienvenue sur Radio Imo, je suis ravie de vous retrouver. On est au Rennes pendant 2 jours à la Porte de Versailles, ravie de vous faire vivre cet événement. Et justement, je suis très bien accompagnée à ma table, Sandra Viricel, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Alors vous êtes gérante fondatrice de Sandra Viricel Immobilier, vous êtes aussi sur M6, ambassadrice, c'est ça, d'Intercab.
Tout à fait.
Plein de casquettes, Sandra, c'est pour ça qu'on adore vous recevoir parce que c'est toujours très intéressant. Et puis Charles Marinakis, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Président de Century 21, pareil, un des plus gros réseaux français, si ce n'est le plus gros.
Le plus gros.
Donc on est toujours, hyper content de vous recevoir. Alors, bon, c'est un regard croisé, en fait. J'avais envie d'organiser ce plateau parce que je me suis dit, voilà, c'est deux personnes très intéressantes. J'ai envie de prendre la température. Alors déjà, j'aimerais que vous me disiez comment ça se passe en termes de business, comment vous percevez le marché en cette fin d'année 2024. Peut-être Sandra, alors pour la région lyonnaise.
Oui. Alors moi j'ai une vision plus locale hein, forcément avec les deux agences à Lyon, mais alors nous on a ressenti depuis début janvier une progression forcément au niveau du nombre de ventes, de la fluidité des ventes, parce que bon forcément les prêts sont plus faciles à obtenir, on sent que les banques sont plus souples aussi au niveau des dossiers, on a une baisse des taux là qui est assez significative, donc on espère qu'il va nous permettre d'assouplir un peu tout ça encore plus et de retrouver des chiffres de transactions un peu plus important. On sent encore que c'est fragile. C'est vrai que jusqu'à juillet, ça a été assez dynamique. Fallait travailler les prix, fallait bien baisser ses prix, il y avait plus de travail de terrain.
Côté vendeur.
Voilà, côté vendeur. Mais on sentait que les acquéreurs pouvaient être là. Si on était au bon prix, on arrivait à faire matcher plus facilement et on obtenait plus facilement aussi les prêts. Après, je trouve que là, on a un petit peu de...
Ça patine un peu.
Alors, je pense que c'est un manque de confiance de la part des gens. C'est vrai que l'actualité n'est pas très réconfortante. Il se passe beaucoup de choses au niveau politique, au niveau international. Donc, les gens sont un petit peu dans l'attentisme, je trouve, en cette rentrée.
Alors, Charles, est-ce que... alors, vous qui avez une vision peut-être plus globale, nationale, on va dire, est-ce que c'est un avis partagé ?
Sur le fond, oui. Sur la saisonnalité, non. Nous, on n'a pas fait un début d'année marqué par un volume de transactions très significatif. Les choses se sont déclenchées vraiment au printemps et se sont nettement améliorées pendant cet été. On a fait un bon été. Les taux avaient, vous l'avez dit, Sandra, avaient baissé 2 fois en l'espace de... Il va baisser 3 fois en 6 mois. Donc, ça a redonné, c'est vrai, du pouvoir d'achat aux Français. Et en même temps, je crois qu'il y avait un travail de fond à faire sur les prix qui était absolument nécessaire. Et les prix ont baissé, vous savez, sur les 18 derniers mois, les prix ont baissé de l'ordre de 12 à 15% en fonction des régions. Et c'est cette convergence, si vous voulez, cette baisse des prix accompagnée par une baisse des taux et une nouvelle appétence des banques pour les prix qui a permis de redonner de l'oxygène à ce marché-là. Donc nous, on a fait un bon été. C'est pas tout à fait la même saisonnalité qu'à Lyon. On a fait un bon été.
Mais on sent cette rentrée, on attendait un peu plus d'engouement sur la rentrée, surtout avec la baisse des taux qu'on a eue. Alors on a fait un bon mois de septembre, mais j'ai trouvé que ces derniers temps, je pense que c'est une question de confiance et de sérénité d'esprit de la part de nos acquéreurs. Même si aujourd'hui le travail de fond a été fait sur les prix de vente, on a l'engouement des banques sur le...
Les banques sont là, les banques ont besoin de nouveaux clients, vous constatez. Hein.
On sent qu'ils sont là. Bon, il y a encore les prêts relais. Nous, on est quand même sur des budgets un peu élevés à Lyon, donc les prêts relais, c'est toujours compliqué à obtenir. Les montants sont assez bas au niveau du montant des prêts relais, donc il faut quand même que la vente se fasse ou qu'il y ait un compromis de signer pour qu'on ait un peu le vente se fasse en cascade, voilà. Mais sinon, les gens généralement vendent et achètent après. Mais c'est juste, voilà, on a une. Moi, je sens ça à Lyon. Après, c'est peut-être pas partout la même chose. On a chacun des marchés très différents en fonction des villes.
On parle de micro-marché là, voilà, même. C'est au sein d'une ville, il y a même des quartiers qui réagissent différemment. À cette crise.
Mais je pense que ça va redémarrer, surtout si on continue au niveau de la baisse des taux. Il faut juste qu'il y ait un peu plus de confiance au niveau des clients.
Alors, Charles, j'avais
été étonné, pardon, parce qu'en fait, moi j'ai pensé longtemps, si vous voulez, que la dissolution de l'Assemblée nationale allait vraiment crisper ce marché-là.
Ouais. Et c'est ce qu'on a tous cru d'ailleurs.
Tout le monde s'est dit, oh là là, on arrive à peine à avoir des marchés qui recommencent à frémir. Le printemps est arrivé, c'est le début de l'été, ça recommence à aller mieux. Et puis, patatras, arrive cette dissolution qui, pour le coup, en termes d'incertitude politique, on ne pouvait quand même pas faire mieux, avec une incertitude sur une formation de gouvernement, une tendance politique, évidemment un projet de loi de finances totalement inconnu. Et puis, en fait, c'est passé le contraire. Moi, ce que j'ai vu, si vous voulez, nous, on a notre trafic sur notre site centimatin.fr a augmenté de 74% dans cette période-là. Et en fait, moi, j'ai vu des acquéreurs se dire, ben, finalement, on sait à peu près ce qu'on a. Les taux viennent de baisser deux fois. On ne sait pas trop ce qu'on va avoir. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, quelle directive. Et moi, j'ai le sentiment que cet été, les Français ont remis, ont ressorti des placards dans lesquels ils avaient enfoui leur projet immobilier.
Donc,
conforté
plus par rapport
aux
taux.
Les taux et la baisse des prix et puis la conjoncture en se disant ben, finalement la conjoncture qu'on a beaucoup critiquée, elle se révèle être finalement pas si défavorable que ça. Et peut-être que les décisions qui seront prises par le gouvernement, le nouveau gouvernement, vont nous être plus défavorables que ce que nous avons aujourd'hui. Voilà. Et ça s'est traduit par une vraie tonicité des transactions cet été. C'est bien, on en avait besoin, ça nous a donné des couleurs, c'est plutôt sympa. Puis ça laisse présager une fin d'année plutôt équilibrée et probablement une année 2025 assez sympa.
Mmh. Alors justement, Charles, je voulais vous poser une question parce que c'est vrai que vous me l'aviez dit il y a, je crois qu'il y a un an et demi, et c'était vrai, l'immobilier était devenu un outil de spéculation, on va dire, avec les taux très très bas, l'argent facile. Et vous me disiez que les Français avaient désormais une mauvaise image de l'immobilier, enfin, que c'était mal employé et qu'il fallait rappeler que c'était un outil de capitalisation et pas de spéculation. Est-ce que ça a changé justement ? Est-ce que cette crise a permis de remettre un peu l'église au centre du village ?
Je l'espère. En tout cas, je n'ai pas questionné les Français sur ces sujets-là récemment. En tout cas, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que sur les dernières années, avec une baisse des taux extrêmement significative et l'augmentation surtout des prêts de l'immobilier, hein, ouais. Vous savez que dans certaines villes, on parle de 200% en 20 ans quand même. La réalité, si vous voulez, c'est que ça a dévoyé la philosophie originelle de l'investissement immobilier. Quand on achète un appartement ou une maison, c'est pour y vivre. Hein, c'est pour y vivre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc c'est un élément, c'est pour mettre sa famille à l'abri, pour avoir un toit, pour s'acheter une zone de confort, un environnement dans lequel on a plaisir à vivre, donner une bonne scolarité à ses enfants, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est un choix de couple, en tout cas c'est un choix familial, c'est un choix important, mais c'est un choix dans le temps. Et à l'origine de l'acquisition de la résidence principale, on capitalise sur la durée du crédit, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et au bout de 10, 15, 20 ans, bah, vous avez un actif qui est significatif parce que vous avez remboursé votre crédit, et voilà. Mais il n'a jamais été écrit nulle part, dans la vision originelle de l'investissement de la résidence principale, que ce que vous alliez acheter 100, par un coup de baguette magique, vous alliez le revendre 120 ou 130, 5 ans après, voilà. Et en cela, on a créé, si vous voulez, de la plus-value artificielle, et un raisonnement des Français qui, quand maintenant ne revendent pas 50% plus cher que ce qu'ils ont acheté, ils trouvent ça scandaleux. Ben non, il va falloir s'habituer à vivre différemment, tant mieux pour toutes celles et ceux qui ont fait des plus-values significatives, accessoirement exonéré de fiscalité.
Il faut aussi oui, sur la résidence principale.
Voilà, ça va peut-être pas durer, il paraît. Ça va peut-être pas durer.
Non, je ne comprends pas ça. Ça va être compliqué le marché. Mais...
Voilà, donc honnêtement, ce serait vraiment un pays de communisme. Enfin, je suis désolée de dire ça, mais ce serait dramatique.
On n'en est pas là.
Non, mais je suis assez d'accord avec ce que vous dites. C'est vrai qu'objectivement, aujourd'hui, tous les clients nous disent « mais je ne vais pas faire de plus-value sur mon bien si je fais des travaux ». Je dis « mais là, c'est votre résidence principale, vous investissez sur ce que là où vous allez vivre avec votre famille ». Je pense qu'il y a l'investissement immobilier où on peut éventuellement envisager de faire de la plus-value parce que c'est calculé, on fait des travaux, etc. Mais on ne peut pas systématiquement, sur la résidence principale, gagner 50% du prix en quelques années. Ouais. C'est vrai que certains clients ont été mal habitués. C'était même d'ailleurs une pratique commune hein, pour certains. C'est-à-dire qu'ils déménageaient tous les 3-4 ans histoire de faire de la plus-value sur la résidence principale.
Ah oui, en résidence principale, tous les 3-4 ans.
Oui, ouais, il y en a qui... C'était, voilà, bon, jusqu'au moment où se faisait retoquer ou pas. Mais voilà. Mais c'est... C'est une pratique qui s'est démocratisée pendant quelques années parce que justement on avait un marché un peu euphorique. Et c'est vrai que le fait qu'on ait une vraie inversion du marché, je pense qu'il faut aussi remettre l'immobilier, c'est voilà, une capitalisation, l'endroit où on va vivre avec sa famille, l'endroit où on va passer du temps, c'est-à-dire que c'est plus, on ne va pas y rester que 3 ans juste pour faire une plus-value dessus. Il faut aussi peut-être se sédentariser un peu plus sur sa résidence principale, quitte à faire des investissements autres pour préparer une retraite, pour avoir des revenus plus tard. Enfin,
c'est un autre débat. Mais, je rappelle que les résidences principales, vous savez, il y a à peu près un peu plus de 38 millions de logements en France aujourd'hui. La résidence principale, c'est 82%. Hein.
Ouais.
Ça dont on parle.
Des transactions.
Du parc
immobilier. Pardon. Et justement, en tant que. Au niveau des transactions, chez vous, ça représente combien les résidences principales versus les investissements ?
Oh, je pense que nous, on ne doit pas aller loin des 80%. Ouais.
80% et pareil, 80% pour le réseau sensoriel. On va terminer sur le RENT. Alors, le RENT 2024 avec comme thème l'IA, l'intelligence artificielle. Alors, vous êtes là tous les deux, j'ai envie de dire, en balade, vous inspectez. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur les RENT? Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on est un président de réseau comme Century 21?
Alors, moi, je viens y chercher trois choses. D'abord, j'ai toujours plaisir à rencontrer mes confrères qui sont installés, qui sont là, et puis les gens qui sont de l'industrie immobilière de manière générale. On y passe, ça nous permet d'échanger et de retrouver un petit peu toute cette industrie, tout ce microcosme de l'immobilier, même si c'est tourné vers la nouvelle technologie, la PropTech. Ouais. Ça, c'est le premier point. On vient quand même regarder ce qui se ferait de nouveau et qui nous aurait échappé. Pas grand-chose, en fait.
Hein.
Voilà,
on
se dit des choses. Ouais. Mais parce qu'on a aussi, on est attentif
oui,
tout au long de l'année.
Oui, toute l'année, vous êtes vigilant, bien sûr.
Ouais. On ne porte pas notre regard qu'une seule fois par an. Ouais. Et puis, on vient se rassurer aussi sur le fait que les agents immobiliers vitrés comme vous, madame, ou comme nous, on nous a prêté une forme de ringardise en imaginant que la digitalisation allait nous disrupter. Moi, je me dis que finalement, on n'est pas si mauvais que ça. Après, tous les outils qui sont disponibles sur le RENT aujourd'hui, le réseau Century 21 les a. Donc, voilà, à charge pour nous de bien les utiliser.
Et alors, même question, Sandra.
L'IA, je vous répondrai après, par contre.
Qu'est-ce que vous êtes venu chercher,
oui,
ça
alors, moi, sur le RENT, c'est toujours pareil. On voit des nouvelles technologies émerger. On les voit en application après sur le terrain avec nous au quotidien, avec les différents fournisseurs de logiciels qui nous permettent de les utiliser. C'est surtout une remise en question pour moi. C'est important de venir, de voir ce qui va se faire, d'anticiper tout ce qui va arriver aussi sur le marché en tant qu'agence et de préparer mes équipes et de se dire qu'il faut peut-être prendre le tournant tout de suite ou attendre un peu. En fait, c'est important aussi parce que la nouvelle technologie, c'est bien. On ne peut pas l'appliquer tout de suite bien au sûr. Niveau des agences et au niveau du terrain. Et puis, je pense que tout ça, l'IA, tout ce qu'on a, tous les outils qu'on a, c'est plutôt une professionnalisation du métier. Moi, je vois depuis qu'on a de plus en plus d'informatique, d'outils informatiques à notre disposition, plus on réglemente aussi notre profession, plus la place du professionnel devient importante dans les transactions.
Bien sûr. Ouais. Donc l'humain reprend sa place. En
voilà.
Fait.
Et je trouve que c'est bien, c'est parce que c'est des outils qu'on va utiliser, mais qui vont ne nous remplacent pas. Après, c'est ce que je disais, il y a aussi un côté humain. Il y a
un moment,
il faut aller
pas.
Voir les biens, il faut les visiter, il faut faire les négociations.
Il faut être sur le terrain.
Il faut être sur le terrain. Et l'IA ne nous remplace pas encore. Donc,
Alors, votre avis sur l'IA pour conclure, Charles ?
Non, je rebondirai sur ce qu'a dit Sandra. Moi, je pense que l'IA ne nous remplacera jamais. Vous savez, on vient de vivre une période que je trouve particulièrement intéressante parce qu'on a vécu un marché extrêmement dynamique, hein, quasiment euphorique, vous l'avez dit, sur pratiquement les 10 dernières années. On a vu émerger, et j'insiste là-dessus, des plateformes, si vous voulez, de mise en rapprochement, de transactions, etc. Des plateformes qui nous prédisaient un avenir sombre avec la disparition de l'agent immobilier, qu'on était des ringards, qu'on n'avait pas de technologie, qu'on n'était pas digitalisé, qu'on ne savait pas faire, et qu'on allait voir ce qu'on allait voir et qu'on allait disparaître. Moi, je vous dis honnêtement, je prends aujourd'hui un certain plaisir à dire, les amis, moi, je suis là, et vous
ouais.
Où est Haussmann aujourd'hui? Où est Mathéos? Où en sont les agences de papa? Moi, j'aimerais bien qu'à un moment donné aussi, on remette l'agence immobilière au milieu du village. Parce que vous, madame, vous avez traversé cette période-là, vous êtes un agent immobilier indépendant, et vous êtes toujours là. Et vous êtes présente, et vous faites bien votre job, j'en suis absolument certain. J'ai qu'un seul regret, c'est que vous ne soyez pas franchisé Century 21, mais
pour le reste...
Il a essayé.
Pas vraiment. Non, mais voilà, il faut aussi remettre un petit peu, l'agence au milieu du village, c'est important. Ouais. Et symétriquement, pour l'intelligence artificielle, vous l'avez rappelé, il faut bien comprendre que toute cette nouvelle technologie à laquelle nous ne sommes ni hermétiques ni étrangers, hein, faut que vous ayez conscience de ça. Ce sont des moyens, mais en aucun cas une finalité. Et il ne faut pas se fourvoyer sur l'intelligence artificielle. Ça restera un outil et pas une finalité. Voilà. Moi, je pense que la finalité, ce sera... Je préfère faire confiance à l'intelligence réelle qu'à l'intelligence artificielle.
Voilà. Et bien voilà, c'était le mot de la fin. Belle phrase. Il y a toujours des punchlines assez sympas hein, avec vous, Charles. Bon, bah, merci à vous deux. En tout cas, merci pour ce regard croisé. Et nous, on continue les plateaux sur le RENT pendant 2 jours. À tout de suite sur Radio Immo.
Le Salon RENT, les 6 et 7 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles. En partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Adaptimo sur Radio Immo.